L'ITA est devenue l'ITAQ, l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, une institution autonome d'enseignement plutôt qu'une structure relevant directement du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Selon la directrice générale Aïcha Issa, l'ITAQ est à construire son autonomie. J'ai fait le point avec elle.
Madame Aïcha Issa, bonjour.
Bonjour, Monsieur Levac.
Madame Issa, vous êtes en poste depuis plusieurs mois maintenant. Vous avez été très occupée à l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Tout d'abord, du côté de cette structure, de l'administration comme telle, qu'est-ce qui s'est passé là, depuis votre arrivée en poste?
Je suis arrivée en poste, donc effectivement, le 1er juillet, en plein été. Donc, c'était les vacances. Nos enseignants étaient en vacances, il n'y avait pas d'étudiants, donc ça m'a permis de faire physiquement l'état des lieux, autant sur mon campus de Apocatia que sur le campus de Saint-Hyacinthe. On a eu la rentrée par la suite au mois d'août et depuis, on est en plein régime, comme toute école, tout cégep, avec l'enseignement, avec la formation continue, parce que dans notre mission, on a également la formation continue, en plus de la formation technique. Donc, je dirais que depuis l'entrée en fonction, là, le cœur de mon activité a été de rencontrer par groupe métier ou par groupe de fonctions transversales dans l'organisation les personnes qui sont là, me présenter et surtout faire parler les gens de leurs rêves. C'est quoi leur rêve de l'ITAQ? Prendre le pouls, observer, mais aussi faire l'état des lieux sur les règles de la fonction publique, parce que de l'ITA à l'ITAQ, donc on passe d'une école qui est gérée par un ministère à une école qui a son autonomie avec un conseil d'administration. On connaît les règles du jeu avec lesquelles on doit composer à partir du 1er juillet. Je passe mon temps à faire ça depuis le début, là.
L'autonomie de l'Institut, ça se vit comment jusqu'à maintenant? Tout d'abord, est-ce qu'on peut dire que, effectivement, on en est rendu à l'ITAQ, à un statut dans les faits et les activités, là, qui ressemblerait à celui d'un cégep? On a fait cette comparaison-là avec les collèges d'enseignement généraux et professionnels, là, dès le moment où vous êtes entré en fonction, là.
Oui, ben en fait, nous, quand on parle d'autonomie, on voit plusieurs formes d'autonomie. Il y a l'autonomie sur nos opérations, il y a l'autonomie sur nos activités administratives. Il y a aussi l'autre forme d'autonomie qui est d'affirmer et de réaliser nos rêves pour chacun des individus et puis nos rêves collectifs dans notre communauté de l'ITAQ. Donc, c'est vrai qu'on a été comparé à des cégeps. Et quand vous lirez notre projet de loi qui nous constitue, la loi 77, il est bien clair que la mission de l'ITAQ, c'est la formation technique, la formation continue, le service aux entreprises dans les domaines agricoles, agroalimentaires et agroécologie, agroenvironnement. Donc, on dépasse, si on veut, les missions traditionnelles qu'on va retrouver dans un cégep, qui est essentiellement la formation. Nous, on va jusqu'à des transferts, de la recherche, du service aux entreprises et la formation continue. Donc, en termes d'autonomie sur les opérations, on continue à dispenser différentes formations, formation initiale, la formation continue comme avant. Et je dirais que notre autonomie se construit par une approche assez pragmatique, donc par l'observation, l'évaluation et l'application. Donc, on observe ce qui se faisait au niveau administratif avec le soutien du MAPAQ par le passé, quand on était ITA. Et à partir de là, on évalue ce qu'on rapatrie et ce qu'on met à jour pour créer l'ITAQ. Et on fonctionne aussi par projet, autant au niveau pédagogique, mais aussi au niveau de notre transition pour adopter de nouvelles façons de travailler, à travailler interprogramme, des croisements, interdivisions administratives. Donc, ce sont de nouvelles approches qu'on est en train de tester en mode projet et être réactif amener des solutions ou des leçons de quoi faire encore mieux ou quoi ne plus faire. Donc, c'est l'autonomie qu'on se construit actuellement.
À travers tout ça, il y a le sentiment d'urgence, je le dirais comme ça, là, dans un contexte où on a un grand besoin de main-d'œuvre en agriculture, en agroalimentaire de façon générale. Et puis, justement, dans ce contexte-là, comment vont les nouveaux cours, par exemple, formation en fromagerie, formation de chef de culture en serre, et je pense qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent, là.
Oui, il y a d'autres projets qui s'en viennent. Quand on sera prêt, on pourrait en discuter. Effectivement, quand je suis entrée en fonction au 1er juillet, il y avait déjà un travail qui a été fait par les équipes pour mettre en place les deux AEC, en chef de culture, en serre, et AEC laitier. Ce sont deux AEC que j'ai mis sur la glace jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à la rentrée prochaine, pour nous donner le temps de nous familiariser, en tout cas d'adopter nos nouvelles façons de faire et aussi de mettre à jour nos installations pour que ce soit vraiment en phase avec ces deux formations-là.
La priorité générale, bien, c'est toujours d'améliorer les compétences dans le monde agricole agroalimentaire là, pour mieux servir l'agriculture, l'agroalimentaire. C'est toujours aussi là, la ligne que vous suivez.
Oui, et en même temps, on a aussi une priorité qui est de remplir notre mission et offrir une expérience qui est unique, qui provient de notre ADN. On a plein de gens qui sont passionnés dans divers métiers et qui touchent tout le spectre de la chaîne de valeur agroalimentaire. Donc, on parle de différentes formations, on parle de l'agriculture à la commercialisation. Il y a des domaines comme l'horticulture, l'aménagement paysager. Il y a aussi, je dirais, la transformation des aliments sur nos deux campus. Donc, cette équipe de passionnés-là veut transmettre cette passion aux gens qui viennent autant en formation initiale qu'en formation continue. Et donc, oui, il y a la mission de pouvoir en main-d'œuvre et il y a aussi la mission d'accompagner les gens à s'accomplir. Et ça, c'est très important aujourd'hui dans le contexte où on parle d'urgence climatique, de conscience écologique, de conscience environnementale, de conscience planétaire, d'accompagner les gens vers un accomplissement d'eux dans leur passion parce qu'on est une école d'agriculture et d'agroalimentaire. Donc, les gens viennent chez nous pour la pratique qu'on peut leur donner. Et on a un excellent exemple au niveau de la pratique parce qu'on a des usines-écoles, on a des fermes-écoles et on a des installations qui permettent aux gens d'expérimenter. Ça, c'est le cœur de métier de notre école.
Des échanges avec le secteur, avec l'industrie de façon générale, par l'intermédiaire beaucoup, je pense, du conseil d'administration. Ça ajoute là à la planification, l'orientation, les choix qui seront faits ou qui devront être faits concernant les formations.
Tout à fait. Le conseil d'administration, on a un conseil où la gouvernance, je pense qu'on est un bon modèle de gouvernance. On a des gens de l'industrie, on a des enseignants, des non-enseignants, et on a des étudiants au sein de notre conseil d'administration, ce qui nous permet d'avoir une vue assez globale du spectre de notre chaîne de valeur, non seulement chaîne de valeur, mais aussi des possibilités qu'on peut offrir de par notre mission sur la formation, sur le transfert aux entreprises. Donc, on privilégie justement cette approche collégiale-là pour avoir une pluralité d'opinions, mais aussi une impartialité dans nos prises de décision.
Vous parliez il y a quelques instants d'installation. Il y a des projets, et ça aussi en avait été question dès l'été dernier, des projets de construction de certains bâtiments, certains équipements, entre autres la Pocatière. Comment ça va de ce côté-là? Est-ce qu'il y a d'autres constructions, d'autres aménagements qui se sont ajoutés là dans les planifications?
Oui, dès l'annonce des nominations sur le conseil d'administration, même la mienne, le 29 juin à la Pocatière, le ministre avait effectivement parlé des montants qu'on prévoyait investir à la Pocatière, donc ça s'est confirmé. Il y en a aussi à Saint-Hyacinthe qu'on va annoncer sous peu, donc je ne veux pas vendre la mèche tout de suite, mais nos projets d'infrastructure sont maintenus. On va annoncer les montants pour Saint-Hyacinthe. Et du point de vue des infrastructures, on est très représentatif de la majorité des installations agricoles au Québec, autant au niveau de la pratique agricole qu'au niveau de la transformation. Et on sait aussi que nos installations doivent être mises à jour. Et je pense que c'est là où on va aussi créer une unicité sur nos façons de faire, parce qu'on va pouvoir enseigner comment faire la transition vers une approche qui est plutôt traditionnelle et actuelle, qui est courante, je dirais pas actuelle, mais courante. Donc, comment faire la transition d'une approche qui est courante vers une approche qui est plus écologique, qui est plus dans le respect des limites planétaires et de l'environnement.
On n'a pas tellement le choix là, d'aller dans cette direction-là. Là. Ce n'est pas une question de mode ou de stricte tendance. Là. C'est une nécessité.
C'est une nécessité qui vient de l'industrie, mais surtout une nécessité qui vient de nos étudiants qui sont jeunes, qui voient les problèmes environnementaux, qui vont gérer, qui vont vivre avec ça quand on ne sera plus là. Et je pense que pour ce souci, pour le futur, on se doit d'accélérer, nous, dans nos façons de travailler, dans nos façons de faire, accélérer la transition. On est une école, donc on est la place pour expérimenter. Et on veut donner toute la place aux étudiants pour pouvoir justement, non seulement au sein du conseil d'administration, mais de différents projets qu'on va mettre en place, les projets de rénovation ou d'amélioration sur nos installations de production ou de transformation alimentaire. Ben, on veut qu'ils soient présents pour prendre des décisions avec nous. C'est important pour la relève.
Au moment de votre nomination, vous disiez aussi qu'il serait souhaitable de mieux vendre l'ITAQ, ses possibilités et exposer tout ça de façon plus attrayante à la clientèle étudiante. Est-ce qu'il y a déjà des initiatives qui se préparent ou qui sont peut-être déjà amorcées en cours de réalisation à ce sujet-là?
Oui, donc effectivement, donc ça fait 5 mois, il y a des initiatives qu'on travaille à l'interne. On ne peut pas dévoiler pour l'instant, mais c'est vraiment là où on s'en va pour mieux vendre et pour mieux servir la clientèle étudiante.
On peut penser qu'il y aurait peut-être davantage de contact avec les milieux de formation secondaire, des choses comme ça.
Secondaire, universitaire, effectivement. Vous savez, au campus de la Pocatière, nous sommes non seulement une école, mais nous sommes aussi un moteur économique. Nous sommes un partenaire régional. À Saint-Hyacinthe, c'est la même chose. Donc, nous sommes sur deux territoires où les enjeux socio-démographiques et économiques nous interpellent et on veut jouer un rôle sociétal, un rôle de partenaire sociétal dans nos milieux de vie. Ça, c'est très important. Aussi, on veut prôner par l'exemplarité. Nous incarnons des pratiques agricoles qui sont représentatives, comme je disais, de la majorité des installations et qui vont évoluer. Donc, on veut faire école là-dessus. Dans certaines cultures, par exemple, on n'en entend pas beaucoup parler. Nous sommes novateurs. On est avancé sur plusieurs projets en termes de culture verticale, d'utilisation de systèmes comme le système Gigrow, des tunnels froids, en culture ornementale aussi. Nous avons des experts dans le domaine de la biophilie. Ce sont tous des domaines sur lesquels on n'a pas suffisamment communiqué dans le passé. Au niveau des techniques de génie agroalimentaire, nous avons aussi des simulateurs de tracteurs. C'est un domaine ainsi que celui de l'agriculture de précision où la prise de décision est basée sur la donnée, sur l'intelligence de la donnée, qui vont prendre un grand essor. Donc, nous avons déjà des simulateurs de tracteurs sur nos deux campus qui sont utilisés à titre expérimental, mais qu'on va vouloir pousser pour justement être en phase avec cette agriculture qui est en mouvance, qui est en transformation et qui va davantage utiliser les données pour assister les opérateurs dans leur prise de décision. On est dans le domaine du vivant, on est dans l'expérimentation aussi. Donc, c'est sûr que l'humain va être le fondement de la prise de décision, mais on veut faire des humains qui vont avoir des capacités augmentées parce qu'il y a des outils à leur disposition avec lesquels on veut qu'ils soient familiers. Donc, ce sont toutes des choses qui existent déjà à l'ITAQ dans les deux campus, mais dont on parle pas beaucoup. Donc, on veut communiquer là-dessus aussi.
Les cohortes actuellement, est-ce que vos cohortes sur les deux campus, et même pour la formation où il y a effectivement des activités à distance, est-ce que les cohortes sont pleines, comme on dit là?
Pleines, pas pleines, qu'est-ce qui est plein ou pas? C'est difficile de répondre à cette question. Nos cohortes, les volumes d'inscription ont été stables dans les deux, trois dernières années. On va faire un effort important l'année prochaine pour avoir une hausse du nombre d'inscriptions en formation initiale pour la rentrée de septembre.
Pour ce qui est des outils, on a parlé un peu des infrastructures il y a quelques instants. Du côté personnel, vous avez tous les gens, toutes les compétences voulues actuellement à l'ITAQ?
Comme vous savez, en sortant du ministère, donc en passant de l'ITA à l'ITAQ, il y a une transition qui doit se faire. Il y avait beaucoup d'activités de nature administrative qui étaient soutenues par le MAPAC qu'on va rapatrier. Donc, il s'agit d'identifier quelles sont les tâches et de passer en mode recrutement pour doter ces postes-là au sein des deux campus de l'ITAQ. Donc, on est en phase accélérée de recrutement avec de l'affichage, de recrutement spécialisé. On s'est doté de nouvelles directions, une direction des ressources humaines et bien-être. C'est comme ça qu'on positionne la direction des ressources humaines chez nous à l'ITAQ. On se dote aussi d'une direction de développement d'affaires, partenariats et communication qui s'occupe non seulement des communications externes, mais aussi de la formation continue. On se dote aussi d'une direction infrastructure, maintenance et opération, qui est aussi de nouvelles directions sur nos deux campus à l'ITAQ. Au niveau de la structure organisationnelle en soi, on rajoute des postes comme des postes d'ingénieurs, des postes d'agronomes. On veut également se positionner au niveau de la responsabilité sociale d'entreprise, donc on va bientôt aussi ouvrir un poste de ce type-là. Alors, on a déterminé, c'est quoi nos piliers? On sait ce qu'on doit apporter du MAPAC pour créer l'ITAQ et on est en effort soutenu là pour doter tous les postes et créer la bonne équipe pour nous.
Pour ce qui est du financement, est-ce que vous avez suffisamment du budget actuel et est-ce qu'on peut en avoir une idée de l'ampleur de ce budget et peut-être de ce que ça prendrait en plus?
Sur la question budgétaire, on souscrit aux normes du secrétariat du Conseil du Trésor. On a un budget de fonctionnement qui est le même que les années précédentes soutenu par le MAPAC. Ce serait un peu hâtif de parler de budget actuellement parce qu'on est dans l'exercice budgétaire. Ce qui est sûr pour nous, c'est qu'on fonctionne avec les mêmes budgets des années précédentes. Donc, on n'a pas de coupure. Ça, c'est la bonne nouvelle. On n'a pas de coupure sur nos effectifs et sur nos budgets de fonctionnement.
Et il faut considérer, je pense, qu'il y a la possibilité maintenant, avec le nouveau statut, d'aller chercher des financements externes.
Exactement. Des financements à différents niveaux, avec d'autres ministères, mais aussi au niveau canadien, donc pas seulement provincial.
Bien, Madame Aïcha Issa, merci beaucoup pour tous ces détails. Et puis, donc, au cours des prochaines semaines, prochains mois, des annonces autant du côté infrastructure que du côté pédagogie, variété des formations et tout ça. Donc, plusieurs choses en mouvance, là.
Oui, tout à fait. Restez à l'écoute avec nous.
D'accord. Bien, Madame Aïcha Issa, merci beaucoup et puis bonne chance pour la suite.
Merci, je vous remercie, M. Levac. À très bientôt.
Ici Lionel Levac. Donc, incessamment, l'ITAC et sa directrice générale auront des annonces à faire, entre autres à propos d'infrastructures, d'étendue des formations et d'une campagne pour mieux faire connaître l'ITAQ et intensifier le recrutement d'étudiants. Au revoir.